France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et aujourd'hui, la science et les sous, ou la fonction sociale du savant. Où vont donc les travaux scientifiques? Le saviez-vous? Il y a une journée de la Terre. Cet événement mondial a trouvé son origine dans l'esprit d'un sénateur américain dans les années 1970. Ensuite, cette journée a été validée par l'ONU. Il s'agit de se préoccuper de l'état de notre planète. Mais voilà, cette année, Donald Trump a été élu et il va amplifier cet événement. En effet, pour nombre de scientifiques et nombre d'organisations scientifiques, comme le CNRS, il va falloir utiliser l'écho de cette journée de la Terre pour protester contre la montée de la volonté de Trump et des obscurantismes. Trump, en effet, est accusé de vouloir bloquer la science en refusant notamment la vérité du réchauffement climatique, mais aussi l'évolution au profit du créationnisme et de tout un ensemble de découvertes majeures de ces dernières années. Les chercheurs souhaitent également en profiter pour protester contre la détérioration de leurs conditions de travail. En cherchant à contrôler les programmes de recherche scientifique et notamment sur l'environnement, et en plaçant un climato-sceptique à la tête de l'agence scientifique américaine, Donald Trump veut favoriser les lobbies industriels et religieux qui protestent contre pêle-mêle la vaccination, l'avortement, l'évolution. Les scientifiques vont donc marcher pour défendre la science. Et cette journée du 22 avril est présentée comme le début d'une stratégie de résistance scientifique contre la négation des données. Il est vrai que la science est la seule activité qui tente d'emmener l'humanité vers la pure connaissance, le vrai savoir contre l'ignorance et contre l'exploitation de la naïveté. En explorant la solution aux grandes énigmes de l'univers, le scientifique apporte à l'humanité un tribut incroyable, le savoir scientifique. Pourtant, si la recherche apparaît comme un art désintéressé, elle dévoile aussi nombre d'applications discutables et même parfois terribles. La fonction sociale du chercheur ne peut pas se réduire à une vocation pure. Les connaissances sont utilisées en médecine, en agriculture, dans l'industrie, dans l'économie et même dans la politique. Voilà une question qui revient sans cesse dans vos messages, chers auditeurs, chères auditrices. Car certains d'entre vous s'étonnent que je puisse parler d'idéologie dans la science, comme le me reprochait Loïc jusque dans les colonnes du Monde Libertaire, ou encore en critiquant que j'ose poser la question de la biologie comme d'une activité suspecte. Ici, je cite Damien, par exemple, qui m'a écrit. Pourtant, il va bien falloir un jour qu'on vérifie l'étroite dépendance qui réunit science et politique, recherche et économie de marché. Car enfin, si la science a besoin de liberté pour fonctionner, il faut tout autant s'intéresser aux projets que la science construit. Si les sciences sont destinées à la recherche des lois de la nature, elles devraient mécaniquement échapper à toute idéologie et par conséquent être totalement indépendantes de l'emprise des doctrines politiques, religieuses ou économiques. Ainsi, on se rappelle tous que Giordano Bruno a été brûlé vif parce qu'il avait voulu promouvoir l'hypothèse d'un univers infini. On se souvient tous que Galilée a été condamné. Les chercheurs semblent donc s'être toujours opposés aux idées faites, tout comme Pasteur refusait la génération spontanée ou comme Lamarck découvrant l'évolution des espèces. Indépendante et désintéressée, la science est porteuse d'universel et ne saurait être contrainte par des législations obscurantistes ou religieuses. Mais quel est le projet que peut porter la science si le retrait des subventions la conduit, par exemple, à provoquer sa fin ? Les scientifiques sont-ils si indépendants des marchands ? Et que deviennent les sous qui sont utilisés ? L'obscurantisme peut pervertir l'activité scientifique, ça nul ne peut en douter. Mais en restreignant son champ d'investigation, les idéologies peuvent aussi donner une pesanteur particulière et une orientation très discutable à des travaux scientifiques que nul ne voulait. Et l'argent submerge également la recherche et la solution des grandes énigmes de l'univers. Peut-elle réussir à s'extraire de toutes ses activités mercantiles ? Eh bien, nous allons réfléchir sur cette fonction sociale du savant, du chercheur scientifique, à travers le prisme de l'argent. Car à regarder le projet scientifique, peut-on se poser des bases d'une recherche libre et indépendante ? Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous aimons déranger les choses, car nous allons discuter de tout cela pendant 1h30. C'était Fats Waller qui nous faisait l'interprétation d'une Russian Fantasy en 1935.
Bonjour, nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission de Science en Liberté, nous allons questionner la vocation scientifique. Bonjour Thierry, si être scientifique reste une profession assez bien appréciée dans le monde, nous allons aujourd'hui regarder d'un peu plus près ce que fait la science et son rapport avec l'argent. Mais d'abord, qu'est-ce qu'être scientifique ?
Ah, que voilà une vaste question, Siona, qui déborde très largement d'ailleurs de ce qu'est être biologiste. On va effectivement pour une fois s'étendre encore davantage. Alors tout ça, ça va commencer, pour qu'on comprenne bien les choses, avec une petite grenouille. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite grenouille. D'ailleurs, c'est une histoire que j'avais racontée à une époque donnée, il y a bien longtemps, à Jacques Chirac.
Non, pas cette personne.
Si, à l'époque, je défendais un peu la nature et donc j'ai fait...
Tu t'adressais un peu à n'importe qui.
Quasiment. Mais à l'époque, c'était en 92, à la grande époque des travaux menés en France entière. C'est le moment où il avait dit la fameuse phrase « Oui, notre maison brûle parce que l'environnement est en défaut et tout ». Et je lui avais raconté l'histoire de cette petite grenouille qui, par la suite, est devenue très célèbre. Parce que, figure-toi, que je l'ai réentendue dans la bouche de politiques qui nous raconte comment fonctionne la science grâce à l'utilisation de cette petite grenouille, la Rheobatrachus. Rheobatrachus est une petite grenouille. Alors voilà comment ça se passe dans la science. Il y a un type un peu fou, un chercheur, un savant, comme on dit, qui s'est baladé à un moment donné dans le désert, et dans le désert, il a rencontré une grenouille. Cette grenouille, il ne savait pas trop comment elle pouvait se reproduire, parce que dans le désert, les grenouilles ne peuvent pas les pondre dans l'eau. Donc, où étaient les petits? Et puis un jour, en observant la vie de cette grenouille complexe, il a observé qu'elle recrachait par la bouche des petits vivants. Donc, c'est qu'elle faisait quelque chose d'assez extraordinaire, mais qu'en fait, est assez répandu chez beaucoup d'espèces, c'est qu'elle faisait une incubation de ses œufs à l'intérieur de son estomac, comme d'autres espèces le font à l'intérieur de la bouche, à l'intérieur d'un nid, ou souvent, parfois, chez les grenouilles, on fait ça un peu n'importe où, un peu où on peut. Et chez d'autres espèces, l'incubation peut se passer même lorsqu'on est vivipare à l'intérieur du corps. Là donc, il s'agit d'une ovoviparité de rétention, c'est-à-dire que l'animal va garder ses œufs à l'intérieur de son estomac. Oui, mais voilà, la question est qu'il faut bien publier cette fameuse reproduction, c'est fantastique. Mais lorsque des gens lisent cette publication-là, parfois il y a des physiologues. Et les physiologues se disent, oui, mais ce naturaliste biologiste qui a observé des stratégies de reproduction d'une grenouille nous dit qu'elle les met dans son estomac. Comment fait-elle pour ne pas les digérer? Voilà une bonne question. Et le physiologue, d'étudier la grenouille, de regarder comment elle peut faire pour ne pas digérer quand elle avale des œufs. Alors en fait, elle en digère un petit peu. Mais cette première digestion de ses premiers œufs va tapisser en quelque sorte son estomac de petites substances particulières qui vont empêcher, des prostaglandines, qui vont empêcher en fait l'estomac de les digérer. Et donc notre physiologue tout content publie « Ah mais voilà, la fonction de certaines molécules particulières dans l'estomac peuvent empêcher la digestion. » D'où l'intérêt d'un autre biologiste qui se dit « Mais si ça empêche la digestion, ça peut peut-être aussi empêcher des tas d'autres choses. Comment ça fonctionne pour empêcher la digestion? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça contre l'ulcère d'estomac, voire même contre les cancers ?» Et donc le gars, il étudie et il découvre les prostaglandines, il découvre l'usage, enfin, on les connaissait un peu avant, mais il découvre comment ça peut agir, comment ça peut réagir, tout ça dans une publication prémédical en quelque sorte. Du coup, ça va intéresser des chercheurs en médecine qui se disent « Mais si ça permet d'empêcher ça, on va peut-être pouvoir l'appliquer à l'homme. Il va donc falloir qu'on applique ces médicaments-là. » Et voilà comment on a découvert des traitements particuliers pour traiter l'estomac. Comme quoi, il faut que le chercheur parte dans toutes les directions possibles et même une petite grenouille du désert peut intéresser la science vivante. Est-ce que c'est pas fantastique tout ça?
Ah oui, quelle belle histoire. Il y a donc deux types de science alors. Une science académique et des applications.
Alors, c'est tout à fait ça. On a un passage particulier entre une science qui va être dite fondamentale et des applications qu'on appelle souvent permanentes. Mais ces applications-là, c'est en fait dans cet aller-retour entre les applications et la science que réellement la science s'élabore et se construit. Il n'y a pas de possibilité de ne pas envisager un retour vers la nature et un retour vers les applications. Alors, toute la science fonctionne de cette manière-là et de plus en plus.
Le chercheur bénéficie aussi d'une image très positive dans la société.
Oui, mais paradoxalement, si le scientifique passe pour quelqu'un qui est très positif, qui est tout à fait important et qui est très valorisé dans ses activités scientifiques, il n'empêche que notre chercheur est aussi quelqu'un de totalement asocial, car il est enfermé dans des problématiques très spécialisées dont la société n'a même pas idée. On ne sait même pas de quoi il parle, de ce qu'il recherche. Le discours d'un scientifique, parfois, on se demande mais de quoi parle le type, quand on parle avec certains physiciens. On peut se demander, mais où il va? De quoi parle-t-il? On n'a pas idée de tout ça, donc le scientifique passe vraiment pour quelqu'un de totalement asocial qui ne se préoccupe pas du tout des choses de son temps.
Effectivement, on l'imagine restant des heures longues à mesurer dans son laboratoire ou perdu dans pleine jungle, beaucoup plus que discutant socialement dans un supermarché.
Oui, en effet, l'image du savant, c'est sans conteste l'image de Albert Einstein. Alors Albert Einstein, on se le représente bien, les cheveux fous, en désordre, des yeux brillants, des habitudes étranges et des propos tout le temps passionnés. C'est un personnage qui apparaît complètement en dehors du monde, complètement fou, et dont les travaux scientifiques sont surtout totalement inaccessibles. Le gars, il parle de choses, on ne sait même pas de quoi il parle. Mais pourtant, les recherches sur la relativité qu'Einstein avait entrepris ont eu des applications très immédiates dans la vie de tous les jours. Non seulement d'un point de vue d'ailleurs technologique à l'époque, mais aussi d'un point de vue politique. On se rappelle après comment Albert Einstein a été impliqué dans la promotion de la bombe atomique notamment.
Ce qui fait qu'il est associable, c'est qu'il est toujours en avance sur son temps finalement et que l'application des travaux paraît souvent floue aux yeux du monde.
Alors oui, non seulement il est associable et effectivement, le plus souvent, la manière et l'importance des travaux scientifiques n'est pas toujours perceptible par le commun des mortels. Le chercheur est dans son laboratoire en train de percer des mystères de la nature. Mais c'est aussi un métier qui apparaît totalement intemporel, c'est-à-dire complètement absent des préoccupations d'un temps défini ou d'une époque définie. Il n'y a pas de modernité dans le chercheur scientifique. La recherche scientifique date de Mathusalem, c'est quelque chose de très ancien. De tout temps, l'humain a cherché à percer les mystères de la nature, mais en même temps, c'est une activité qui est innovante, donc qui apparaît absolument moderne, absolument actuelle. Et donc, on a toujours cette espèce de paradoxe entre une activité qui n'est pas passée, qui n'est pas présente et qui n'est là que pour de l'avenir. On ne trouve... Le problème, c'est qu'on pourrait croire que le chercheur scientifique va résoudre des problèmes en se posant des questions. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le chercheur scientifique ne peut trouver des solutions qu'à la seule et unique condition qu'il se pose les bonnes questions. Ce qui veut dire que la recherche scientifique est très dépendante du temps présent dans lequel on est et de la manière dont les questions sont abordées dans le temps présent et non pas de manière intemporelle totalement. Même si le chercheur paraît intemporel, les questions sont totalement prises au piège d'un présent permanent.
D'après toi, les découvertes ne se font pas donc au hasard, mais découlent de la volonté du chercheur.
Tout à fait. Pour faire une découverte, il faut chercher. Mais la recherche ne peut pas tout faire. Pour faire de la recherche, c'est un peu... On va prendre l'exemple de la pénicilline, je vais être beaucoup plus clair comme ça. Alors tout le monde sait qu'en 1928, Alexander Fleming a découvert la pénicilline. Comment ? On nous dit toujours par hasard. Il revenait de vacances, alors il est revenu dans son laboratoire. Là, paf, il a regardé ses petites boîtes de pétri, parce qu'il avait posé dans des trucs des boîtes de pétri avec plein de staphylocoques dedans. Et paf, il revient, et les boîtes de pétri ont l'air de ne plus du tout proliférer comme d'habitude. Les staphylocoques, dans leur milieu nourricier, semblent s'arrêter, semblent avoir un arrêt de croissance. Or, cet arrêt de croissance semble dû à une moisissure qui est présente là-dessus. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait un hasard si notre ami Alexander Fleming faisait pousser des cultures. D'abord, c'était un chercheur en microbiologie qui cherchait effectivement les effets antibactériens. Il utilisait donc ces staphylocoques comme des modèles pour savoir comment on pouvait arrêter leur prolifération. Et il travaillait en fait principalement sur les lysosomes. Alors, les lysosomes, ce sont des petites particules qu'on a dans les larmes, par exemple, ou à d'autres niveaux, et qui ont un effet antibactérien, qui protège les yeux. Donc notre chercheur n'était pas parti au hasard. Il partait sur des substances antibactériennes, il les avait mis dans des boîtes de pétri, ces petites staphylocoques, pour qu'ils poussent normalement, et puis partant en vacances, ils s'attendaient à ce qu'au retour, certaines boîtes de pétri avaient telle et telle chose. Il y a eu effectivement une erreur. Une erreur de manipulation qui a conduit des moisissures, les fameux pénicillium, qui vont donner à la pénicilline, à s'introduire dans la boîte de pétri. Ça veut dire que c'est une erreur de travail qui a présenté ça. Mais le chercheur n'aurait simplement jeté ces boîtes s'il avait vu qu'elles étaient pourries par des moisissures. C'est pas ça qu'il a compris. Il a tout de suite compris que ces moisissures arrêtaient la croissance des staphylocoques. Et donc on voit bien que pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait déjà avoir entamé un début de recherche. On voit que la recherche du savoir, même fondamental, est déjà un tout petit peu orientée.
Oui, mais enfin, au Moyen-Âge, les personnes cherchaient un peu au hasard, dans tous les sens.
En fait, non, il y a toujours eu cette orientation vers un but particulier, cette orientation qui va définir la recherche et sa méthode. Prenez par exemple les alchimistes du Moyen-Âge. Eh bien, les alchimistes du Moyen-Âge avaient comme objectif de chercher l'or, de fabriquer la pierre philosophale. Et pour ça, ils mélangeaient tout un ensemble d'éléments. Mais pour les mélanger, il fallait les connaître, il fallait apprendre à les découvrir. Ils ont inventé, en quelque sorte, les bases même de la chimie sur une fausse base, sur une base totalement ésotérique. cette chimie qui va travailler, qui va leur permettre de mélanger tous ces éléments, eh bien, ça va leur permettre aussi de comprendre ce qu'est un corps pur, ce qu'est un corps composé. Ils vont travailler sur tous ces éléments, ils vont les mélanger, ils vont les chauffer, et ils vont petit à petit définir quelques bases des éléments chimiques. Mais attention, ce ne sont pas des scientifiques, tout simplement parce qu'ils font de la cuisine. Pour commencer à faire de la science, il va falloir qu'ils comprennent que tel élément mélangé à tel autre va donner nécessairement tel autre élément, telle autre chose.
Établir des règles.
Établir des règles, établir des mesures, savoir à quelle quantité ça se passe, et là, on va faire apparaître la science.
Mais c'est tout de même à travers ces recherches ésotériques que la science s'est édifiée.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit une des particularités fondamentales de la recherche scientifique, c'est bien de se baser sur des techniques qui sont acquises, mais maîtrisées. Et en travaillant sur ses propres techniques, sur ses propres éléments, on va petit à petit connaître, enfin présenter un savoir qu'on peut répéter. La science, c'est quelque chose qu'on peut répéter. Si une découverte scientifique n'est pas reproductible, comme on dit en science, eh bien c'est qu'elle n'est pas une découverte scientifique. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça apparaît en quelque sorte comme une amélioration des techniques, parce que les techniques sont nécessaires pour faire émerger d'autres problématiques, d'autres questions. Il n'y a donc pas dans les faits, d'opposition fondamentale entre la science, qui est un savoir systématique, qui repose sur une recherche rationnelle et générale, et la technique, qui est, elle, un savoir sommaire et empirique.
Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, and lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo.
In a rose tattoo, in a rose.
C'était le groupe Dropkick Murphys qui nous interprétait cette entraînante Rose Tattoo. Donc Thierry, l'activité scientifique est à l'origine une recherche des racines du monde finalement, un travail fondamental pour comprendre la nature.
Et oui Siona, la science va utiliser un outil particulier pour étudier et comprendre la nature, le raisonnement, la raison. Et c'est cette raison qui va expliquer ce qu'est la nature. Il faut donc comprendre la science comme une recherche fondamentale pour d'abord s'émanciper des chimères, s'émanciper de la magie, essayer de replacer l'humain au centre de son histoire et donc essayer de libérer l'esprit de toutes les illusions et de tout ce qui est apparence. Donc, il s'agit de mettre de la raison et de refuser qu'un raisonnement soit enfermé dans des croyances ou contraint par des foies religieuses, par l'occultisme ou par des idéologies politiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de disciplines qui essayent de revendiquer l'art d'être scientifique, même si historiquement, beaucoup de ces disciplines sont plus proches de la spéculation que de la science. Il va donc falloir faire la différence. En science, on va raisonner sur des hypothèses dont on va tester la validité. Ça veut dire qu'on va essayer de les exposer à des faits, ces hypothèses, et on va vérifier évidemment que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Il ne s'agit nullement de croire que ça va fonctionner, il s'agit bien de raisonner et d'élaborer des hypothèses scientifiques, des théories scientifiques pour essayer de comprendre ce que sont les faits. On va donc s'appuyer sur des faits, on va les tester, on va les mettre en doute pour vérifier leur valeur, et ensuite évidemment on pourra construire notre théorie scientifique. Dans d'autres disciplines, on part bien de théories pour essayer d'expliquer des phénomènes. Mais souvent, les phénomènes dont on parle sont très mal identifiés. On considère comme des faits des éléments qui sont discutables. Prenons par exemple la présence de fantômes, la présence d'extraterrestres. Bon, tous ces éléments-là sont déjà considérés à la base comme des faits. Et évidemment, ça ne permet pas d'exposer ces faits à un doute ou à des éléments qui permettent de tester si ces faits sont présents, existent ou n'existent pas.
Pourquoi ? Ce sont des disciplines qui ne regardent pas les phénomènes réels hein.
Alors, il existe des faits, des événements qu'ils constatent. Mais il faut savoir comment se poser la question sur ces événements ou sur ces faits. D'abord, il faut se poser les questions les plus évidentes. En science, on va raisonner sur les choses les plus évidentes. Telle apparition dans le ciel qui ressemble à quelque chose peut parfaitement être un nuage lenticulaire. Donc, il faut savoir que ça existe, les nuages lenticulaires. Il faut donc avoir déjà des bonnes bases pour comprendre tout ça. On peut aussi, mathématiquement, compter le pourcentage de gens courageux dans une société. Oui, mais pour compter le nombre de gens courageux dans une société, il faut déjà définir ce que c'est que le courage. Est-ce que le courage, il est bien défini ou est-ce qu'il est le résultat d'une simple croyance ? Je crois que je suis courageux, je crois que c'est un gars qui est très fort. Dans les sciences humaines ou dans les sciences morales, on a beaucoup d'événements comme ça qui sont assez peu scientifiques. On peut les mesurer, on peut leur donner l'apparence de la science, mais ces mesures ne donneront jamais à ces éléments-là des résultats vraiment scientifiques. C'est souvent le cas dans des sciences réelles, comme la médecine par exemple, ou la psychologie, dans lesquelles il y a parfois des événements qui sont traités et qui apparaissent comme des réalités, alors que ça mériterait d'être davantage discuté. C'est aussi le cas en biologie, hein. Les sciences naturelles peuvent aussi être sur ces limites-là. Un exemple de science naturelle qui va nous présenter une grande limite. On va étudier par exemple le taux de pesticides chez des canards sauvages. Alors là, on ne peut pas faire mieux, c'est un taux de pesticides, on va faire des maths là-dessus, et ce sont des animaux, des canards sauvages. Or, on va poser ça comme une recherche scientifique. Mais quelle est la méthode ? C'est là la question. Mettons par exemple que le scientifique se dise « c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller demander à des chasseurs de me donner un petit échantillon de chaque canard dans lequel je vais analyser le taux de pesticides. » Et comme ça, je vais pouvoir avoir un joli taux de pesticides dans des canards qui vont être analysés. Et je pourrais publier « tiens, les canards sont porteurs de tant de pesticides ou peu de pesticides. » Le problème, c'est que mon échantillon, c'est l'échantillon prélevé par des chasseurs, et donc mon échantillon repose sur des canards tués par les chasseurs. Donc, par des canards qui sont tuables par les chasseurs, des canards qui sont capables d'être exposés au tir de la chasse à un moment donné de leur vie, des canards qui vont être dans des lieux particuliers, accessibles aux chasseurs. Bref, ce n'est pas une population réellement représentative de tous les canards du monde. C'est au contraire un échantillon extraordinairement limité dans le temps, et donc le seul résultat qu'on aura, c'est le taux de pesticides chez les canards qui ont été tués par des chasseurs. On n'aura rien d'autre. Il s'agit donc bien des résultats sur des données réelles, mais le résultat n'est pas forcément fiable si on l'étend au reste des populations de canards.
Oui, c'est un rapport à la réalité qu'on observe, qu'on voit, et en plus, la science est faite par des humains. Les savants, c'est quoi ? Un savant par rapport à un scientifique.
Alors, effectivement, ce sont deux mots qui en gros, résonne sur la même chose. Mais au départ, l'image caractéristique du savant, c'est plutôt celle de Léonard de Vinci. Là encore, quelqu'un d'un petit peu fou, un petit peu en dehors du monde, qui va sans cesse aller en quête de connaissances. Il part de savoirs qui sont forcément présents, mais qui sont très, très divers, mais très incertains. On ne sait pas grand-chose, on va explorer. Donc ce savant semble observer la nature et l'étudier au sens large, hein, c'est-à-dire qu'il va étudier tout ce qui peut exister dans la nature, depuis les astres en passant par la qualité du bois, etc. Il semble le faire par curiosité intellectuelle personnelle, par soif de connaissance, et donc par un simple intérêt intellectuel. Le savant se présente comme ça, et il est utilisé ce terme très anciennement pour justement décrire, à partir de l'Antiquité, un personnage un peu excentrique qui va être préoccupé par les forces de la nature. Un personnage un peu en dehors du monde, on l'a vu tout à l'heure. L'existence de ce savant est donc par nature précaire, car ses recherches vont l'amener à mettre en cause le monde, vont à mettre en cause même parfois les pouvoirs, les questions religieuses. Et donc, il va, en quelque sorte, remettre en cause l'ordre du monde, poser des questions sur cela, et le savant est une face apparente du chercheur scientifique qui donne l'impression de cette science désintéressée, de celui qui sait et qui peut apporter une connaissance encyclopédique.
Le scientifique, en fait, il est différent. Alors, il est plus dans le monde et...
Oui, ce n'est pas la même image. Le savant, c'est une image un peu ancienne. Le scientifique est une image apparemment plus moderne. Il est plus dans le monde. C'est un chercheur à qui on va demander un certain taux de réussite. On va lui demander des découvertes. Donc, on lui demande bien sûr d'avoir un esprit rationnel, d'être capable de nous conseiller dans le monde. Mais comme c'est censé être quelqu'un qui place de la vérité sur les choses, il va évidemment apparaître comme une sorte d'expert. Pourtant, cette vérité peut être parfaitement discutable. Mais souvent, cette vérité est donnée comme indépassable. Le scientifique, il est opérant, il est plus technique, plus technologique que le savant. Aujourd'hui, c'est le terme préféré. On parle de scientifique pour montrer petit à petit cette sorte de glissement entre un métier qui était au départ un élément de curiosité très personnel avec un métier qui est beaucoup plus social et au service de la société.
En fait, la science se présente quand même comme désintéressée. Au contraire d'un patron qui cherche à gagner de l'argent.
Historiquement, la science paraît en effet très désintéressée. Par exemple, la médecine, elle est faite pour soigner les gens, etc. Et nombre de savants ont été persécutés par l'Inquisition, par exemple, parce qu'ils ont émis des études qui étaient contraires aux dogmes religieux. Donc on a pas bien cette apparence que le savant est quelqu'un d'en dehors du monde. Mais historiquement aussi, si le Moyen-Âge connaît une science qui est une activité apparemment totalement différente des autres, elle est quand même assez intéressée et beaucoup plus ésotérique qu'on peut croire. Le prêtre, le moine, il est dans son monastère, il semble plus près de la société que ne l'est le scientifique. Mais si le religieux va s'occuper de la société pour régler les rituels, notamment de la mort, de la vie de ses semblables, le scientifique peut apparaître étrange, consacré à des activités inconnues. Mais comme il est misanthrope et inquiétant, on va quand même essayer de comprendre ce que fait le scientifique. Et le scientifique lui-même va tout de même permettre petit à petit de se mettre au service d'une société donnée.
La médecine a été tout de même l'activité scientifique bénéfique à tous.
Alors, la médecine apparaît souvent comme la science de la science dans la mesure où elle est effectivement l'activité qui semble permettre d'améliorer des techniques qui vont aider les humains.
Sauver les humains.
Par exemple, la médecine, telle qu'elle est apparue, notamment avec la chirurgie d'Ambroise Paré, s'est apparue pendant la guerre, pendant les guerres, et avec à côté du roi. On voit bien qu'il y a quand même là une sorte de mélange, puisque le savant n'était pas dans les campagnes en train d'aider les paysans, il était bien auprès du chef, auprès de l'armée, en train d'essayer de faire qu'il y ait des soldats plus efficaces. Alors, il faut se rappeler qu'Ambroise Paré, qui était barbier au départ, est devenu chirurgien du roi, et c'est sur les champs de bataille qu'il a inventé la chirurgie moderne. Il a lui-même été inventeur de pas mal d'instruments, ce qui a permis effectivement d'améliorer la qualité des soins et la diffusion. Bon, notamment, le cas le plus connu, c'est la technique de cautérisation qu'il a inventée. Les plaies étaient généralement affreuses avec les armes blanches. Et donc, il a fallu, avec l'invention des armes à feu, on a en plus eu des plaies encore pires, puisqu'il y avait des bactéries, des microbes qui bouillonnaient là-dedans. Et à l'époque, on cautérisait à l'huile bouillante ou au fer rouge. Qui était évidemment un bon moyen pour avoir une crise cardiaque en plus de la blessure. Et donc, comme ça pouvait tuer le blessé, en plus on ne pouvait pas évidemment mettre du fer rouge n'importe où, hein, dans la tête ou ailleurs, ce n'était pas tellement faisable, il fallait trouver quelque chose. Et c'est Ambroise Paré qui a découvert la méthode, qui a mis au point la technique de ligature des artères. En ligaturant les artères, il a empêché beaucoup d'amputations et ça a permis de faire pas mal de choses. Mais c'était surtout pour avoir des soldats qu'on pouvait ensuite remettre sur le champ de bataille. Car évidemment, c'est une très mauvaise publicité pour dire de s'engager dans l'armée si on laisse mourir tous les soldats de putréfaction.
Allez, on pourrait dire la chair à canon. Voilà, remise en forme.
C'était ça. Et en fait, cette méthode de traiter les plaies, et etc., il en a fait un livre en 1537. Hein, il a aussi, par la suite, fait un traité sur l'accouchement et sur l'anatomie. Sa qualité principale, ça a quand même été d'avoir une exigence particulière sur son métier de barbier chirurgien, aussi sur le plan humain et pas que sur le plan purement scientifique. Par exemple, au départ, on utilisait à l'époque un truc qu'on appelait le bézoar, qui était la pierre de fiel, qui est en fait quelque chose qui se retrouvait dans l'estomac des ruminants. Hein, c'est une forme de caillou qui est produit par l'intestin et par l'estomac. Et à l'époque, lui, on va dire qu'il a mis en doute la qualité de ce bézoar, qui était considéré quasiment comme un antidote universel. Hein. On donnait des petites particules de ce bézoar aux gens en pensant qu'on allait pouvoir tout en soigner. Alors il a proposé qu'on en donne à un condamné à mort. Alors on a empoisonné le condamné à mort. Et une fois qu'on l'a empoisonné, on lui a donné du bézoar pour s'en sortir. Et donc, il a pu comprendre comme ça qu'effectivement, le bézoar n'était pas efficace. Alors le petit marmiton qui était condamné à la pendaison parce qu'il avait osé toucher à de l'argenterie, on lui promettait de lui laisser la vie sauve s'il acceptait ça. Le bézoar n'a pas fonctionné, comme le bézoar ne s'est pas montré efficace, évidemment, le cuisinier est mort 7 heures après être empoisonné. Mais c'était déjà un début d'expérimentation. Alors, oui, n'hésitez pas à l'époque. C'est là où on voit que la science est parfois totalement froide, hein, totalement indépendante de la réalité humaine, et que même celui qui passe pour celui qui va soigner les humains...
Ah, c'est un technicien quand même,
C'est quelqu'un d'assez froid. C'est pas toujours le cas. Si on prend, par exemple, la découverte par Jenner des vaccins. Alors Jenner, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il a appliqué un savoir populaire à la science pour justement faire une découverte. Au départ, la question, c'était la variole. La variole, évidemment, était une maladie très grave qui empoisonnait les campagnes. Or, notre ami Jenner, qui était médecin de campagne, a découvert que les femmes qui travaillaient sur les vaches laitières n'attrapaient pas la variole. Pourquoi ? Elle le disait elle-même, elle le savait parfaitement. C'est parce qu'à traire le pis des vaches, les vaches possédaient déjà une petite maladie qu'on appelait la vaccine. Et cette maladie que les vaches avaient, c'était des sortes de petites tumeurs et de petites blessures que les vaches avaient sur les mamelles. Les femmes de ferme avaient souvent les mains pas très propres, elles chopaient ça assez rapidement. Et donc, elle disait, oui, mais comme ça, maintenant que j'ai chopé ça, je sais que je n'aurai pas la variole, donc je peux aller m'occuper des malades.
Il y avait une connaissance populaire.
Voilà. Cette connaissance populaire, Jenner en a fait une connaissance scientifique en la testant. C'est-à-dire qu'il a essayé de vérifier si en prenant des particules de vaccine, on ne pouvait pas inventer quelque chose qui allait réduire à néant la variole. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a inventé le vaccin. On voit très bien qu'il y a la technique qui précède la science, la capacité, le savoir populaire. Ce savoir populaire va être ensuite testé, va être travaillé pour en faire une théorie scientifique qui va dire si je prends ce produit-là, je n'aurai plus la maladie derrière. On la teste, on essaie de voir si ça marche, sur combien de personnes ça va fonctionner, parce que tout le monde n'est pas forcément susceptible d'échapper à la maladie. Mais on comprend du coup que la science va devenir pertinente parce qu'elle va mesurer tout cela, y compris d'ailleurs les mauvais effets que tout cela peut faire. Il y a donc une différence entre le savoir populaire et la connaissance scientifique, mais la connaissance scientifique n'échappe pas aux besoins du savoir populaire.
La science a donc aussi une étroite relation avec l'organisation sociale et donc aussi avec le pouvoir.
Alors ça, on vient bien de le voir avec Ambroise Paré, hein, qui n'hésitait pas à utiliser les personnes et les condamner notamment pour cela. Mais en même temps, il faut bien penser que ça a toujours été ainsi. L'astronomie, par exemple, si elle a été tellement valorisée dans l'Antiquité, c'est parce qu'elle servait déjà à instituer en quelque sorte la mythologie. Le mouvement des planètes et des astres était en accord avec les dieux et avec les déesses et donc permettait d'organiser la société et de réguler les phénomènes sociaux. L'étude du mouvement des planètes a aussi été très important parce que ça a permis des calendriers qui étaient indispensables aux travaux agricoles. Et donc là, on voit bien qu'on a une recherche de technologie, de technique, qui va se mettre en place et qui va évidemment être favorisée par la connaissance, par la science. Et ça va permettre évidemment aux marchands de produits et aux organisateurs de la société de davantage s'installer grâce à ce savoir. Le savoir va en effet devenir un atout quand on peut l'appliquer. C'est pour ça que déjà, dès l'origine, les savants ont été valorisés, mais surtout à la hauteur des découvertes qu'ils permettaient. Et c'est comme cela que les chefs et les rois veulent non pas des chercheurs, mais ils veulent des découvreurs.
Avec le capitalisme, les relations entre le savant et la technique deviennent de plus en plus étroites.
Ah oui, de plus en plus mélangées même. Le savant ne va vraiment s'imposer d'ailleurs qu'avec la société industrielle. À partir de là, on va Parce qu'il faut que la société elle rejette les idées magiques, qu'elle rejette les valeurs religieuses pour pouvoir faire preuve d'une rigueur nouvelle. Et si la société n'accepte pas ce rejet-là, la science ne peut pas émerger. C'est pour ça que les scientifiques ont peur d'un retour de l'obscurantisme qui ne rejetterait pas ces fondements-là et qui, du coup, empêcherait effectivement...
Mais oui, on ne peut plus explorer,
voilà,
en fait.
L'exploration a besoin de cette traditionnalité-là. Et donc, on va voir apparaître deux personnages nouveaux à partir des premières industries qui datent du Haut Moyen-Âge. Le chercheur d'une part et l'ingénieur d'autre part qui va appliquer en quelque sorte le travail du chercheur. Il y a déjà une grosse séparation du travail entre celui qui va concevoir la recherche et celui qui va produire des effets sur cette recherche.
Mais en fait, là, on est au Moyen-Âge. Après, quelle évolution cela...
Alors, on s'aperçoit que dès le Moyen-Âge, en fait, effectivement, l'étude, l'école, la recherche sont prises très au sérieux. On va d'ailleurs préciser dans les contrats d'apprentissage, dans les contrats des travailleurs, qu'il va rester des heures libres pour les apprentis, pour les jeunes scientifiques, d'aller faire de la recherche et de suivre les leçons du notaire ou d'institutions savantes. Les premières universités sont très anciennes. L'université d'Angers, par exemple, où je travaille, date de 1573 à l'origine.
Oui, quand même.
C'était plutôt de la médecine, mais on voit que c'est quand même à l'époque. On se rappelle de François Villon, qui était étudiant. On se rappelle que tout ça va moduler, en fait, dans la société, un nouveau savoir, un nouveau groupe qui va se différencier de l'Église, qui va essayer d'apparaître indépendant de l'Église, parce qu'il faut faire preuve d'exigence, de rationalité et de rigueur pour pouvoir avancer. Alors, ça n'empêche pas que l'Église va évidemment chercher à avoir un pouvoir sur ces éléments-là. L'emprise de l'Église sur l'université, par exemple, au Moyen-Âge, est très importante. Au cours de la Renaissance, on va voir apparaître la figure du concepteur, de l'intellectuel, parce qu'on va diffuser des imprimés, on va diffuser des livres. Et là, du coup, le contrôle religieux va commencer à s'estomper. On ne peut pas surveiller la diffusion d'un tel savoir.
Et puis chaque individu s'approprie...
Chaque individu peut s'approprier le livre, le lire, et donc on va avoir un contrôle politique qui va chercher à davantage travailler ça. Les livres vont être contrôlés par le politique, il va y avoir on dit que c'est pour protéger les auteurs, mais c'est bien plus pour protéger ce que disent les livres, et le pouvoir notamment, que des contrôles sont faits sur les livres, et ça va évidemment favoriser en quelque sorte la capacité de limiter la contestation. Et c'est évidemment un point très très important de la société d'époque, car les universités vont maintenant contribuer à la constitution d'autres choses qu'on va petit à petit voir apparaître dans des idéologies nationales, par exemple, ou dans des phénomènes de ce genre.
What goes inside of the man that used to hold your hand? Did you ever try to understand what goes inside of the man that gives his love in your hands? Some nights we die. Some nights we cry. Don't push your love over the borderline. Some nights we die. Some nights we cry. Don't push your love over the borderline. Over the line. Over the borderline. Try to understand what goes inside of a man that used to hold your hand. Did you ever try to understand what goes inside of a man that gives his heart in your hand? Some nights we die, some nights we cry. Oh.
Nous écoutions The 69 Eyes.
Et en anglais, s'il vous plaît.
Borderline. Nous revoilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité. Dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. La science va donc imposer, comme nous l'avons vu là, du rationnel où il y a de la magie ou de la religion. Et c'est pour cela que les États ou la religion ont cherché à finalement la contrôler. Mais les scientifiques sont quand même toujours restés au service des dominants.
Alors, l'État a effectivement, avec la religion, tenté de contrôler ce qui se passait en termes de science. Mais le renouveau de tous les savoirs va aussi autoriser une forme de contestation. Cette contestation va se renforcer au XVIIIe siècle, au fur et à mesure qu'apparaît le fameux siècle des Lumières. Le savoir va s'émanciper en grande partie des croyances religieuses, de tous les présupposés métaphysiques, comme par exemple la chimie qui va petit à petit se libérer de l'alchimie. Mais on va voir apparaître quelque chose d'un petit peu plus différent, car depuis le Moyen-Âge, la société ne se préoccupe pas seulement du savoir théorique, elle va exiger un savoir de plus en plus technologique. Et en fait, petit à petit, la science va s'enferrer dans ces éléments-là pour apporter à la société qui se développe tout un ensemble de connaissances et de savoirs technologiques, techniques, mais aussi parfois un peu plus fondamentaux. On va voir que petit à petit, la science va glisser, on va assister à un glissement vers le développement des échanges marchands.
Et donc Thierry, la science n'est pas seulement cette belle activité pure du chercheur scientifique dans son laboratoire, c'est aussi une personne au service d'une société.
Oui, et pas de n'importe quelle société, c'est-à-dire qu'il est bien sorti de sa tour d'ivoire le chercheur, mais pour petit à petit s'imbriquer complètement dans la pratique des relations marchandes et dans le développement de cette société qui va devenir de plus en plus élaborée, industrielle. Alors, si on prend par exemple ce que Karl Marx dit dans Les Grundis, il nous dit: le capitalisme a donné à ce développement scientifique et technique une orientation déterminée qui implique et comporte un vaste complexe mécanisme conscient et inconscient de sélection des priorités de recherche et des innovations effectivement appliquées. En bref, le capitalisme réoriente selon une fin productiviste une réserve de techniques et de connaissances scientifiques, faisant de l'invention une simple branche des affaires. Et l'application de la science à la production immédiate va déterminer des inventions en même temps qu'elle les sollicite. Donc Marx note bien ici la relation étroite qui existe entre le développement technologique et l'invention qui va apparaître sur les fondements des bases scientifiques et inversement à nouveau participer au développement de ces échanges marchands. On voit que le rôle de la science va s'affirmer de plus en plus comme une sorte de régulateur social à l'aide des statistiques, des mathématiques, de la psychologie, qui vont permettre un certain équilibre du monde marchand. Évidemment, les États, les monarques, eux, vont toujours chercher à s'entourer de savants depuis le début pour renforcer leur puissance. Mais là, maintenant, on va voir que les industriels font de même.
Ainsi, loin d'être des curieux égarés, les savants ont un lien avec les États.
Oui, on a vu que Léonard de Vinci représentait par exemple la quintessence du savant de la Renaissance. Mais dans la réalité, il faut se rappeler qu'en tant que scientifique, notre ami Léonard de Vinci a aussi beaucoup fait progresser la connaissance dans les domaines de l'anatomie, au service de la guerre, du génie civil, mais aussi de l'hydrodynamique. Et puis il a inventé des choses qui étaient peut-être très en avance sur son temps, mais qui étaient directement faites pour le développement des armées et renforcer les pouvoirs de l'État, comme par exemple l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin et bien sûr jusqu'au char d'assaut. En fait, c'est pas un hasard si on retrouve évidemment notre ami Léonard de Vinci dans les antichambres de François Ier ou dans les antichambres d'autres puissants.
La science a toujours été valorisée par les États.
La science a été en partie valorisée par les États, mais en même temps, elle apparaissait comme un ennemi de l'État. Il faut attendre, en quelque sorte, la fin de la Révolution française pour que l'éducation scientifique devienne officiellement une affaire d'État. Avant, elle servait d'abord au chef, au roi, au monarque. Petit à petit, on va commencer à comprendre, on va la destiner à devenir un outil de progrès social. Et c'est évidemment avec les grandes idées de la Révolution française que cet objectif, et avec les grandes idées des Lumières, que cet objectif de la science va petit à petit se définir. Mais comme ça reste toujours un enjeu de pouvoir, cela va se voir. Par exemple, Lacoste nous rappelle que, deux points, ouvrez les guillemets, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre.
Eh oui, l'usage...
L'usage pratique, effectivement, de la science n'est pas tout à fait lié à du hasard. En d'autres termes, science et connaissance sont orientées dans le but de renforcer le pouvoir et la régulation sociale. Les connaissances des savants, des ingénieurs servent donc à nourrir de nouvelles inventions qui vont permettre effectivement le développement de nouvelles machines de guerre, de forteresses. Et évidemment, du coup, l'ingénieur va être la suite logique du scientifique. En même titre que Archimède, par exemple, qui avait développé au service des puissants tout un ensemble de techniques de génie militaire. On parle d'Archimède de Syracuse, bien connu pour sa fameuse phrase « J'ai trouvé, Eureka !» quand il est sorti de sa baignoire. Mais c'est sûrement d'ailleurs une histoire relativement fausse. Mais en tout cas, Archimède...
Elle fait rêver.
Mais Archimède va mettre en pratique des connaissances théoriques en développant des inventions. Alors ça, c'est ce qui plaît le plus évidemment aux États, les inventions, les découvertes. On lui doit par exemple des machines de traction où il va montrer que les poulies, les palans, tout ça, ça va servir à soulever bien plus que ce qu'on est capable de faire normalement. Mais aussi beaucoup de machines de guerre. C'est par exemple lui qui a inventé la meurtrière. Il a développé la catapulte. Il a utilisé des bras mécaniques dans le combat naval. Et on sait bien sûr que lors de l'attaque de Syracuse par la flotte romaine, il y a toute une histoire qui nous raconte qu'il avait mis au point des boucliers qui formaient des sortes de miroirs géants chargés de concentrer les rayons du soleil pour enflammer les voiles des navires romains. Ça semble d'ailleurs assez peu probable. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été refaites. Et à l'époque, on ne connaissait pas le miroir qu'on connaît de nos jours, le miroir argentique. Et donc, on utilisait des miroirs en bronze. Alors, les boucliers en bronze, même très, très bien polis, reflètent quand même beaucoup moins bien la lumière du soleil. Mmh. Et probablement que ce mythe a été un petit peu surdéveloppé pour montrer qu'Archimède était quelqu'un de bien. Mais dans le même temps, on s'aperçoit qu'il était d'abord au service du tyran de Syracuse, ce qui n'est quand même pas un hasard. En fait, nombre de savants vont chercher à renforcer les moyens et la puissance de l'État. Le politique va utiliser les chercheurs et la connaissance des chercheurs à des fins politiques. Même les éléments qui paraissent le plus sympathiques, comme l'invention des roses, ça va servir à développer la recherche génétique sur les couleurs des roses, va servir à développer les jardins du roi, va servir à essayer d'épater en quelque sorte les autres. Lavoisier va s'intéresser au domaine industriel de son temps. Mais dans un article bien documenté qui est publié dans la revue Innovation, Sophie Boutillier nous raconte que les recherches de Lavoisier sur la chimie de l'eau ont été en grande partie la suite logique de tous les travaux qui avaient été faits pour alimenter Paris en eau. Alors ce ne sont pas des travaux inutiles parce que ça permet à chaque fois évidemment de donner du bien aux gens, mais en même temps c'est très centralisé, très concentré évidemment pour les dominants.
La fonction sociale du chercheur devient dans ce cas de plus en plus appliquée au développement des industries.
Oui, et surtout à partir du 19e siècle, mais dès le Moyen-Âge, on ne se préoccupe pas que du savoir théorique. L'artisanat n'a pas été étranger à l'innovation. On a mis beaucoup d'éléments qui faisaient des relations entre la science et l'industrie. Alors le savant n'est plus une espèce d'individu qui va développer une curiosité désintéressée. Il devient un chercheur, véritable salarié doté d'un statut social, soit salarié du secteur privé, soit fonctionnaire, donc salarié d'État. C'est au 19e siècle, par exemple, qu'on voit apparaître des chercheurs d'État comme Louis Pasteur, qui, bien que dans le privé, va effectivement être un des représentants de cette nouvelle génération. Alors, il va lutter contre la génération spontanée, il va inventer des vaccins, notamment le vaccin contre le charbon. Mais beaucoup de ces vaccins, beaucoup de ces travaux vont concerner les industries qui se développent. L'industrie du vin, par exemple, en travaillant sur les moisissures. Donc on voit que la connaissance va de plus en plus devoir déboucher sur une marchandise ou un service.
Et du coup, finalement, l'image du scientifique se modifie.
Oui, ils sont élevés au rang de modèles sociaux, leurs apports intellectuels vont modifier la vision du monde, il va y avoir un culte des savants, un culte de la science, un scientisme qui va se développer avec le positivisme notamment, comme l'une nouvelle religion, en quelque sorte laïque, de la société industrielle en voie de déchristianisation. Darwin apparaît totalement dans cette image-là, comme une sorte de dieu vivant qui a inventé une méthode particulièrement efficace, même si au bout du compte, évidemment, il était totalement pris dans le piège de l'eugénisme de son temps. Le scientifique va être maintenant récompensé, les travaux scientifiques vont être récompensés, on va le proposer comme expert et on va lui demander de reconstruire l'économie et la société qui fonctionne mal.
Il y a une sorte de demande de pouvoir rationnel. On veut des experts pour les décisions.
Oui, parce qu'on pense que le capitalisme est quelque chose qui fonctionne mal et qu'il faut améliorer, à l'image des écologistes d'aujourd'hui qui pensent qu'il faut essayer d'améliorer le capitalisme parce qu'il va cul par-dessus tête, ce qui est totalement vrai. Mais le scientifique, heureusement, ne va être reconnu que comme conseiller. Ça ne va pas être l'expert qui prendra les décisions, ça restera quand même entre les mains de gens qui vont les prendre, même si ces élections démocratiques sont toujours discutables. Ils n'empêchent que, sont plus que discutables. Il n'empêche qu'en reléguant le scientifique à un simple rôle de conseiller, on évite quand même bien des problèmes de penser que la vérité est entre leurs mains. Les instances économiques veulent sortir évidemment de cette incertitude du marché, donc elles demandent à des chercheurs économiques de faire de la recherche utile, c'est-à-dire de la recherche qui va déboucher sur de la production, sur l'innovation des marchandises. C'est d'ailleurs pour ça que petit à petit, on va inventer des grandes structures, des institutions, des structures institutionnelles qui vont encadrer les recherches scientifiques en proposant des directions de recherche par les financements, en proposant des financements. Donc c'est subtil. Par exemple, comme le commissariat à l'énergie atomique, ou encore le CNRS, ou encore l'INRA, ou même les grandes écoles. Mmh. Elles vont orienter la recherche pour que les chercheurs deviennent des conseillers au service des entrepreneurs ou au service des États. On veut une valorisation dans l'entreprise privée, des travaux de recherche qui sont pourtant réalisés normalement dans le cadre de fonctions publiques, ce qui est évidemment très, très discutable.
Oui, l'État paye la recherche qui profite aux industriels.
Voilà, et du coup, on va même inventer des lieux spécialisés où vont se rencontrer les sciences et les industries. C'est ce qu'on appelle, par exemple, en France, les technopoles. C'est pas nouveau, hein, ça existait déjà depuis très longtemps, mais c'est développé et c'est valorisé d'une manière particulière. On va, par exemple, à Silicon Valley, la Silicon Valley californienne, c'est ça, c'est un regroupement de lieux de recherche, des universités, des centres de recherche scientifiques, avec des entreprises, y compris ce qu'on appelle les start-up, des entreprises soi-disant innovantes, etc. Et on voit très bien qu'on est en train de mettre totalement la curiosité scientifique, finalement, dépendant totalement du marchandage.
Ça devient sous une coupelle, finalement, et le statut du chercheur passe à un autre état.
Voilà, il passe d'un statut de mendicité où on demandait de l'argent, on passe notre temps à demander de l'argent pour pouvoir faire des recherches, mais c'était auprès de gens qui théoriquement ne regardaient pas la recherche qu'on faisait, a maintenant un statut de prestataire de service.
Le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou. Habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian.
Tout cela est finalement intéressé hein, pour rapporter juste 1,50 € de plus. La science est-elle au service de l'humanité finalement ?
Alors on pourrait croire que la science reste toujours une activité pure et saine. Mais que ce sont simplement les applications techniques, technologiques, qui elles sont mises au service des différentes idéologies et c'est celle-là qui salirait la science. Mais comme on l'a vu, le chercheur cherche avec un regard particulier, comme Fleming, qui n'a rien fait par hasard. La science est liée à la société et à ses demandes. Ce sont donc les demandes qui vont orienter la recherche scientifique.
Mais alors, la science est parfaitement neutre si elle obéit aux demandes ?
Aux demandes sociales, non, parce que ce ne sont pas de vraies demandes sociales. Ce sont des exigences de particuliers, ce sont des exigences d'individus particuliers, et d'entreprises bien sûr, de patrons. Et parfois même des exigences de l'État ou des policiers. La demande dominante, pour paraphraser Marx, je dirais la demande dominante est la demande qui domine. C'est-à-dire que ce sont les dominants qui font la demande. Les pouvoirs vont donc orienter et définir les besoins sociaux, ce qu'ils appellent leurs besoins sociaux, qui sont en fait leurs besoins propres de dominants.
Alors Thierry, nous remarquions que la science était immergée au milieu des entreprises maintenant.
Oui, par exemple, on peut prendre le Génopôle, par exemple. Alors, Génopôle, c'est une unité de recherche en génomique végétale. Ce laboratoire a donc plusieurs programmes, deux programmes majeurs, hein, principalement. Rechercher ce que sont les gènes, ce que sont les fonctions d'un gène, comment il s'exprime, pour une plante modèle. Et ensuite, ils vont analyser l'organisation du génome de différentes autres plantes cultivées, le maïs, le blé, le melon, le colza. Et leur objectif va être de fabriquer, par exemple, des choux résistants aux pucerons, un maïs résistant à cela, des pommes résistantes à la tavelure. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils vont travailler sur des applications économiques immédiates, et cette connaissance va être ensuite donnée aux entrepreneurs, aux chercheurs, quelle que soit sa forme, elle doit finalement déboucher sur la production d'une marchandise. Alors on voit ici que les rapports entre les petites et les grandes entreprises peuvent aussi prendre la forme de relations de sous-traitance. Par exemple, dans le cadre du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce sont des laboratoires universitaires d'écologie, des laboratoires d'environnement qui ont été sollicités pour proposer des mesures, mais dans l'objectif de rendre acceptable l'entreprise de construction de l'aéroport.
Donc finalement, leur avis est quelque peu biaisé par le fait qu'ils demandent des subventions, mais en même temps, on attend de leur part un certain avis.
Ils sont payés pour un conseil, mais évidemment, ça peut les orienter que de travailler dans le cadre de ce conseil, puisque peut plus difficilement déplaire à celui qui nous paye, même si on va proposer des mesures qui sont efficaces. Hein, on ne peut pas
même
douter
non plus.
Même
s'ils peuvent être honnêtes aussi quand
bien
même.
Bien sûr, c'est un travail scientifique et honnête en règle générale.
Pour le chercheur, il est toujours présenté comme indépendant, un savant sans pression.
Oui, sauf que la part désintéressée, comme on vient de le voir, la part désintéressée de la recherche est de plus en plus faible. Et c'est le produit d'une très longue modification du statut de chercheur. La demande de l'État pour contrôler ses activités est devenue de plus en plus imposante. Avant, les savants recherchaient un mécène qui les aide à travailler ou un monarque pour être protégés et ils pouvaient explorer en toute curiosité leur art. Alors, c'était pas aussi facile, hein, c'est pas aussi simple. Il y avait quand même de fortes contraintes. Mais peu à peu, on a fait du scientifique un coopérateur social. Au nom de l'économie capitaliste, il est devenu le coopérant principal, celui qui va orienter une économie qui ne fonctionnerait pas très bien et qu'il faudrait améliorer. Depuis longtemps, hein, l'État, les grandes entreprises vont encourager les scientifiques et les inciter, par exemple, à poser des brevets d'invention qui vont déboucher sur des marchés et faire améliorer les rapports d'échange marchands.
La science aide au progrès technique.
Alors en faisant ça, la science aide au progrès technique, mais ces évolutions particulières, ce sont évidemment des problématiques différentes, marchandes. C'est facilité par les technologies, hein, le gain des entreprises, ça va faire des gains de productivité, la possibilité pour les entreprises de mettre en œuvre de technologies de plus en plus efficaces et des activités d'invention en particulier. On va avoir une division de plus en plus approfondie du travail de recherche avec un accès libre aux connaissances de la part de certains ingénieurs recrutés dans les activités des entreprises pour mettre en pratique des procédés d'innovation qui viennent parfois de l'université.
Est-ce finalement la fin d'une recherche indépendante ?
La science est en tout cas de plus en plus réduite à une petite part de la société. Elle devient prisonnière des marchés et des entreprises avec une valorisation de la recherche académique qui est quasiment obligatoire. On a un transfert des connaissances qui va de l'université vers les industries et c'est devenu depuis quasiment les années 80 maintenant un des éléments centraux, un des éléments principaux de toutes les politiques de l'État et de la volonté d'innovation. L'université va donc s'orienter de plus en plus vers l'utile, vers le marché, et on est en train d'assister à une dominance de l'entrepreneuriat privé, c'est-à-dire du monde de la marchandise, sur les structures publiques de la recherche.
La part des intéressés, quelle est-elle finalement aujourd'hui ?
Alors, la recherche va quand même toujours résister, en effet, pour se placer dans un cadre rigide. Poincaré, par exemple, affirmait « la science a besoin de liberté pour exister ». Et malgré tout, il y a toujours des conceptions humanistes qui peuvent sortir des universités. Et les sociétés exigent ces conceptions humanistes. 60% des universitaires publient au moins un texte scientifique tous les ans. Et ils vont les diffuser. La recherche est donc dépendante quand les chercheurs sont enfermés dans ces projets-là. Mais en même temps, on a une part qui reste de valorisation de la recherche à travers des fêtes de la science ou des choses de ce genre. En tout cas, la recherche est aussi assez dépendante de l'État dans la mesure où beaucoup de chercheurs se pensent mal payés par rapport à ce qu'ils mériteraient, par rapport à ce qu'ils croient valoir d'un point de vue social.
Combien gagne un chercheur universitaire ?
Alors, un chercheur scientifique, son salaire moyen c'est quand même pas très 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 élevé. On va dire que ça va de 2200 euros à 3500 euros. Bon, pour un professeur en fin de carrière qui a vraiment toutes les primes nécessaires, il peut atteindre environ 4400-4500 euros.
Et un début à quel...
Mais un ATER, un attaché temporaire de recherche, un personnel précaire dans la recherche, un thésard, va toucher environ 1600 euros. Hein. Un maître de conférence, c'est autour de 3500 euros.
Non, ça varie, c'est plus haut.
Ça dépend des primes et de toute cette obtention-là. Mais c'est vrai que c'est carrément le double ailleurs. Si on prend les salaires allemands, canadiens ou aux États-Unis, on gagne beaucoup plus. C'est vrai que c'est peu par rapport à d'autres scientifiques comme les dentistes. Un dentiste, ça touche en moyenne 7 700 euros.
Oui, c'est vrai que tu avais un étudiant qui a eu sa thèse au Canada qui gagnait énormément plus actuellement.
Oui. Un médecin débutant, c'est 6 600 euros jusqu'à 8 800 à peu près pour un médecin généraliste. Mais chez les spécialistes, ça peut monter jusqu'à 17 000 euros. Donc on voit que les 3 000 euros d'un professeur d'université, ce n'est pas beaucoup par rapport à tout ça. Mais si on prend le salaire médian, qui est de 1630 euros en France contre 2300 en Finlande, au Luxembourg, c'est un peu plus que ça. On s'aperçoit quand même que par rapport à 1700 euros, c'est bien payé. C'est presque le double pour un professeur d'université. Il ne faut pas oublier non plus que le SMIC est toujours à 1000. Actuellement, il est à 1200 euros à peine. Hein,
1120,
oui. Et le salaire considéré comme un salaire de pauvre en France, c'est 1284 euros. Donc on s'aperçoit que le seuil de pauvreté, lui, est encore plus bas. On le dit à 760 euros. Pour la France. On s'aperçoit donc qu'effectivement, les salaires sont finalement très, très écrasés autour d'une somme donnée et qu'on est très loin des 17 000 euros d'un chirurgien, par exemple. Alors, on voit que l'enjeu de la propriété intellectuelle de la recherche va être aussi financier pour les chercheurs, car l'industrie va ajouter des sommes, va ajouter des primes, des suppléments de salaire.
Et malgré tout cela, il reste encore une science qui soit juste éducative.
Alors oui, la part désintéressée existe encore. Elle est faible, mais elle existe dans les activités de vulgarisation, dans les manifestations qui sont élaborées, les manifestations, les émissions scientifiques comme celle-ci, qui j'espère sera écoutée au-delà des murs et jusque dans les prisons, parce qu'il faut apprendre, développer l'esprit critique.
Mais, et de chaque individu.
De chacun. Oui. Alors il y a des manifestations comme Fête de la science, par exemple. Qui sont là pour exposer les derniers travaux. Mais le problème, c'est évidemment de réussir à savoir si on est dans un développement du savoir au service des communautés humaines ou si c'est une activité qui est faite ici pour inciter les gens à penser comme on doit penser à travers les idéologies scientifiques. Il faut bien penser que la partie désintéressée de la science, c'est quand même une activité très marginale et que c'est ce présupposé de la curiosité scientifique qui reste le mythe d'une sorte de progrès infini des techniques et des technologies.
Et cette science-là est neutre, juste pédagogique ?
Oui, cette science est faite pour effectivement se diffuser, pour faire comprendre ce que c'est que le savoir et surtout ce qu'est le raisonnement scientifique. Mais malheureusement, très souvent, cette science devient une science officielle qui appuie des idéologies, du développement technologique, de l'amélioration vers un progrès infini, car c'est l'idéologie qui est derrière cette science.
C'est toujours l'idée d'une amélioration au fur et à mesure.
On s'aperçoit aussi que cette science peut diffuser des idées bizarres. Par exemple, Trivers va justifier... Alors, Trivers est un biologiste évolutionniste qui est très célèbre en biologie évolutionniste. Et il va argumenter que l'évolution va sélectionner l'égoïsme des humains. Pourquoi ? Parce que c'est phylogénétiquement un avantage de faire du libre-échange et ça découle directement d'une aptitude biologique innée au mensonge et à la duperie. Voilà ce que conclut en effet de notre ami Trivers du capitalisme marchand. Et donc finalement, le capitalisme marchand est pour lui quelque chose de naturel. Alors il en reconnaît la duplicité puisqu'il dit que ça développe le mensonge, mais c'est donc dire à quel point le néo-darwinisme admet totalement le libéralisme marchand.
Sans compter que le Front National reste aussi en embuscade. Si on va écouter un jeune groupe qui a de l'avenir, Extrême Gauche Caviar, qui va nous intituler « Premier parti de France ».
Premier parti de France.
Va te faire enculer, tu seras parti de France. À l'orée du mois de mai, sous les vapeurs de putrescence et d'essence de ton parti en
et la sentence
pour nous avoir obligés
à sortir
du lit un dimanche toutes les cinq de cette année.
Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe, Science en Liberté. Alors, après toutes ces révélations sur l'état de la science et des sous, de son argent caché et des relations avec les industries, faut-il sauver la recherche, Thierry ?
Alors, cette vaste question mériterait une émission à elle toute seule, car la science est de plus en plus un outil politique capitaliste au service des dominants. Et en outre, elle est regardée comme une sorte de connaissance indiscutable. Donc, si la vérité sort de la science et que cette vérité ne profite qu'à l'État, on a une science qui devient totalement sclérosée, incapable de développer un certain humanisme. Et surtout, évidemment, les idées qui vont être diffusées dans la société sont des idées de régulation sociale, simplement au service des dominants. Comme ces vérités sont officielles, évidemment, tout peut être dangereux. Mais la recherche est capable de produire ses défenses, ses résistances, grâce au développement de l'esprit critique, notamment. Le problème est qu'on présente la marchandisation de la recherche comme étant la condition inéluctable de son financement. Et donc les travaux complexes vont être directement applicables, ce sont des travaux qui sont devenus indispensables. Il faut donc n'avoir que ce type de référence de savoir scientifique.
C'est le cas des OGM, non ?
C'est tout à fait le cas, oui. Avec la biologie, là, on a franchi une étape au profit de la marchandisation du vivant. C'est une privatisation du vivant qui développe de nouvelles marchandises grâce aux biotechnologies, mais qui dissimule les inégalités du contrat qui existe entre les multinationales et la recherche académique. En fait, on n'a plus de compensation sociale. On a ici des nouvelles marchandises qui vont prôner finalement un marchandage sauvage, mondialisé, dans lequel c'est le secret de fabrication qui tient lieu de valeur ajoutée. Donc le droit d'information du public n'existe plus, le droit même de diffuser les éléments n'existe plus, et ça dépend simplement du bon vouloir des entrepreneurs. Alors ce sont des produits qui sont donnés aux entreprises, parce que souvent, la question c'est de savoir pourquoi ces firmes s'octroient le privilège de ces produits-là, alors que le travail découle le plus souvent de la recherche publique. Et puis c'est évidemment beaucoup plus grave que ça, les OGM, mais en quelque sorte, si on traite simplement des graines OGM, on s'aperçoit que, d'abord, c'est très difficile de maîtriser la technique OGM, mais en plus, les entreprises se sont appropriées des monopoles, alors que de tout temps, les semences ont été considérées comme un bien commun de l'humanité elle-même.
Avec les OGM, la sphère privée des industries a volé la nature grâce aux chercheurs.
Tout à fait. C'est la logique de rentabilité du monde marchand. La collusion des chercheurs et des marchands, c'est généralement légitimé par le fait qu'il y a des avancées scientifiques. Mais ce progrès annoncé est toujours de plus en plus loin, de plus en plus impossible, de plus en plus incertain. On s'aperçoit que l'amélioration technique des procédures va surtout favoriser une industrialisation de nos vies. On va être de plus en plus mêlé à un monde incapable de se maîtriser lui-même. Finalement, le bonheur qu'on nous promet est un bonheur totalement ambigu. Avec un contrôle de plus en plus fort de nos vies elles-mêmes. Avec les OGM, par exemple, c'est tout à fait visible. On a une appropriation privée et un échange marchand qui ont complètement pénétré les sciences naturelles avec l'organisation de la marchandisation des variétés, des gènes et même des micro-organismes.
Donc, si la science fait progresser la technique, elle obéit encore au pouvoir d'argent ?
À travers l'idée d'un progrès, oui, la science n'est pas en dehors de la société. Il existe bien sûr des chercheurs indépendants qui explorent d'autres pistes. Parfois, ils sont marginaux. Ils sont plus désintéressés. Mais ça dépend d'eux-mêmes, de propre. Et ils n'ont pas toujours l'argent qui va avec. Si ça dépend de leur volonté propre de se poser des questions, c'est évidemment pas toujours facile dans un monde qui n'a pas forcément envie d'entendre ces questions. Et tant que la demande sera la demande des dominants, bah la science va forcément obéir aux exigences des dominants. La demande vient principalement de ceux qui possèdent la parole, les institutions, et qui évidemment, sans rire, s'appellent des élites. Les élites, qu'on nomme souvent les forces vives de la nation, c'est-à-dire ceux qui disposent finalement de tout, ce sont les possédants, les entreprises, les marchands. Et comme la demande vient d'un monde marchand, il ne faut pas trop s'étonner que la science soit de plus en plus inféodée à cette demande marchande.
Oui, cette marchandisation, en fait, va nous donner quel monde ?
Oui, parce qu'il faut se rappeler que l'échange marchand n'a rien de naturel. Il possède son histoire propre. Il a été inventé à partir du siècle de Périclès, notamment pour s'associer au féodalisme, puis au colonialisme, et enfin au capitalisme industriel. L'humain avait vécu des centaines de milliers d'années sans la marchandise, et il a très bien vécu. Mais à ces époques-là, on a prétendu depuis qu'il y avait un progrès grâce à la science. Et petit à petit, en analysant, en comprenant le fonctionnement de la nature, eh bien on s'est émancipée des illusions magiques. Mais si c'est pour retomber maintenant dans les illusions marchandes, évidemment, le problème va être de savoir quel est ce progrès dont on parle. Voilà pourquoi il faudra qu'on fasse une émission sur « Faut-il sauver la recherche ?»
Tout à fait. La marchandisation, en fait, tu veux dire que la marchandise n'est pas une chose...
Oui, le caractère trompeur de l'échange marchand, c'est de faire croire qu'il s'agit d'un rapport entre des objets, entre des choses. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est un rapport de force entre des humains qui est basé sur la dépendance artificielle de l'un par rapport aux autres. Avec l'esclavage, on comprend très bien ce que c'est que la marchandise. Imaginez, l'esclave, pour qu'il devienne une marchandise, il faut évidemment qu'on ait envie de le vendre. Vous voyez, oui, à quel point c'est quelque chose
cet
de...
Cet exemple est problématique.
Non, il n'est pas problématique, il est fondamental. Si on comprend effectivement qu'on peut faire d'un humain un esclave, qu'un esclave a pu devenir un objet marchand, c'est bien entendu parce qu'il résulte d'un rapport de domination. Mm-hmm. C'est évident qu'on ne peut faire un esclave qu'à la condition de dominer un être humain.
Ouais,
et par conséquent, c'est comme ça qu'on en fait une marchandise. C'est pareil pour toutes les marchandises. On en prend... On nie en général l'élément du vivant, l'élément de ici oui. Dans le cas de l'esclave, c'est par exemple son humanité. Hein, on dit que c'est un sous-homme ou autre chose. Et à partir de là, on va pouvoir en faire une marchandise. Bon, on fait comme ça tout le temps.
Et pour les animaux, c'est pareil
bien
aussi.
Sûr.
Malheureusement, qu'on élève dans des conditions.
Ça veut dire que la marchandise suppose un rapport de force à la base qui va exiger d'être protégé par des instances comme la police et la violence de l'État, qui va évidemment se requérir le monopole de cette violence. Le salariat découle directement de ce rapport de force, ce qui entraîne une vente du temps de vie des salariés et non pas d'une nature des choses où chacun devrait avoir une occupation légitime.
De plus en plus, la science dit qu'elle aide la société en réduisant les conflits et en améliorant les productions.
Alors ça, c'est en affirmant évidemment que la science va permettre que le monde soit de plus en plus équitable. C'est à la fois reconnaître que le capitalisme ne découle pas d'une meilleure organisation des rapports humains possible, avec en filigrane la démocratie ou le libre-échange, avec un destin humain qui serait en route vers une démocratie libérale inéluctable. Non, il faut bien comprendre qu'au contraire, on est ici dans un rapport de force entre des individus qui s'approprient des choses, et à partir de cette appropriation, ils peuvent les vendre. Et donc, on s'aperçoit que le capitalisme est un rapport d'exploitation des autres.
Le point de départ de la science, n'est-ce pas la nature ?
Oui, la science n'est pas une activité réservée aux savants, n'est pas réservée à une élite. Bien au contraire, elle vient des gens, de ceux qui ont inventé les techniques de base. À la base, on a un galet qui coupe, ça devient un outil, on peut apprivoiser le feu. Et tout ça, ça permet de refuser l'état magique de ce qui est capable de couper ou de ce qui est capable de brûler. La science va découler de cette étude du réel, de ce que des personnes se sont concentrées, se sont pas contentées d'explications ésotériques. Pour cela, les premiers inventeurs vont être capables de douter des choses, de les regarder différemment pour développer des technologies particulières qui vont engendrer des savoirs, qui vont ensuite être étudiés, analysés, de manière à voir comment on peut fabriquer. Et c'est comme ça qu'est née la science.
Tu veux dire que ce sont les techniques qui sont à la base de la science et non pas la science qui développe les techniques ?
La science provient des savoirs populaires, en effet, et ça, il ne faut pas l'oublier. L'activité scientifique n'est pas au-dessus des connaissances triviales. Elle s'émancipe des explications simplistes, certes, mais elle provient d'abord du savoir empirique, elle provient de ce que l'on sait, pour se développer ensuite vers l'universel. Une grande partie de la science s'appuie donc sur des savoirs populaires, avec un aller-retour permanent entre la connaissance de la nature, la technique et la science. Bon, par exemple, dans la biodiversité, c'est tout à fait caractéristique. On va comprendre que telle et telle chose fait partie de la nature, on va utiliser cet élément, ce fruit, cette plante, et l'utilisation de cette plante va permettre de poser la question « mais comment ça marche ?» et donc d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la nature. C'est donc toujours un aller-retour entre le commun des mortels et le scientifique, le savoir, qui vont permettre de poser cela. La science va dépendre de la société dans laquelle elle est. Alors le livre de Clifford Connor, qui s'appelle « Histoire populaire des sciences », par exemple, aux éditions L'Échappée, raconte très bien comment les sciences et les techniques sont nées ensemble.
Alors on peut dire que si la science est suspecte de profiter aux profiteurs, la méthode scientifique doit quand même résister.
En effet, il s'agit de développer d'abord l'esprit critique. Il faut s'affranchir des habitudes pour innover. C'est pourquoi la science est une entreprise qui bouscule les pseudo-explications magiques, les légendes explicatives. C'est toujours plus facile de dire que le soleil tourne autour de la Terre puisqu'on le voit tous les jours se lever et se coucher. Mais évidemment, dans la réalité, c'est un fait apparent qui n'a rien de scientifique. C'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Or, pour savoir que la Terre tourne autour du Soleil, il faut le calculer. On parle d'obstacle épistémologique, c'est-à-dire que le réel ne se donne pas, il faut l'analyser. Et pour réfléchir, il faut rompre avec l'observation triviale et développer un autre regard. C'est ce qu'on appelle faire preuve d'esprit critique. Il n'y a pas de données, il faut les acquérir en partant d'une hypothèse. Le travail scientifique provient d'un savoir qu'il faut connaître, mais il ne faut pas se réduire à le répéter, il faut développer, à partir de ce savoir, des recherches vers de nouvelles hypothèses en développant un doute permanent.
Oui, mais un doute permanent, cela peut conduire à une sorte de relativisme.
Oui, tout à fait, il faut faire attention. Le doute scientifique n'est pas un doute à la façon des trolls qui contestent le réel partout sur Internet. C'est un doute méthodologique qui met en question des explications simplistes. Il met en question des légendes et la magie au profit d'une analyse des phénomènes naturels. Le négationnisme ou le nihilisme ressemblent parfois à des doutes, mais ils ne sont que la caricature des doutes scientifiques, car ce sont des négations infantiles, des manières de ne refuser de regarder le réel. D'ailleurs, ces obscurantismes adoptent généralement des explications magiques qui sont toutes à la botte des dominants ou des fachos, hein, comme le créationnisme, le négationnisme historique, etc. Le doute scientifique, au contraire, est basé sur le refus de la simplification, sur un refus des légendes, car la nature est bien plus fantasque qu'on croit, bien plus merveilleuse que l'on peut penser. Et pour accéder à cette nature, eh bien, il faut y mettre de la raison, de la réflexion, ne pas placer son raisonnement sous le joug d'une croyance. En fait, l'esprit critique est la chose la plus belle du monde.
Tout à fait.
The honky tonk blue. Yeah, the honky tonk blue. Hey, Lord, I got 'em. I got the honky tonk blue. Yeah, I went to a dance and I wore out my shoes. Woke up this morning wishing I could lose them jumping honky tonk blue. Yeah, the honky tonk blue. Oh, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blue. Honky-tonk blue. Hey, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blue. I'm gonna tuck my worries underneath my arm and scat right back to my pappy's farm and leave his honky-tonk blue. Hey, the honky-tonk blue.
Nous voilà donc au terme de cette émission avec cette magnifique musique de Hank Williams. En conclusion, que pouvons-nous dire ? Eh bien, que les sciences explorent la nature du monde et sont par essence universelles. La science ne devrait rien avoir à faire avec les idées marchandes, mais au contraire toujours s'affirmer universelle à la recherche des vérités profondes de la nature. Donc la science ne se brevette pas, elle se publie, elle appartient à l'humanité, comme le disait Marie Curie. C'est très difficile de faire la part des choses entre une recherche appliquée au service de la marchandise et une science fondamentale dont les applications vont fondamentalement aller à la rencontre du capitalisme. En fait, il faudrait qu'on puisse réussir à faire une science qui soit de plus en plus populaire, de plus en plus accessible et surtout qui ait un objectif, qui clarifie un petit peu les choses. Il ne faut pas forcément se lancer dans de l'anti-science à une époque où on a trop tendance à valoriser l'ignorance parce qu'on est un peu dépassé par les événements et par les épisodes de la découverte intellectuelle. Souvent, l'intellectuel est d'ailleurs déconsidéré. On a besoin de retrouver un lien entre les techniques nouvelles qui sont fondées sur un savoir et sur la vie sociale. La science peut permettre cela, mais ce n'est pas la la science qu'il faut s'attaquer. Il faut au contraire développer une organisation de la science qui soit au service, non pas de la domination et des idéologies de pouvoir, mais une science qui permette de s'émanciper. Le savoir doit servir à ne pas être prisonnier des événements de la nature, mais au contraire à pouvoir les utiliser, à pouvoir vivre avec. Un peu comme l'écologie essaye de réconcilier l'humain avec la nature. En un moment donné où on est en pleine biologisation de la société avec une importance incroyable des technologies, des techniques, on a de plus en plus besoin d'un anarchisme qui doit accepter un savoir scientifique, accepter de populariser la science et surtout évidemment réussir à rendre la science populaire. Pour exister, nous avons de plus en plus besoin de développer un monde libertaire et par conséquent de regarder de plus en plus ce qu'il y a de libertaire déjà existant dans le monde pour essayer de développer des innovations nouvelles qui permettraient aux sociétés de se réguler d'elles-mêmes. Il va falloir développer une éducation populaire, une éducation qui fasse émerger des connaissances pures, des connaissances qui nous permettront tout à la fois de nous protéger, que ce soit pour l'informatique, l'environnement et aujourd'hui l'écologie. Il va falloir évidemment travailler à comprendre ce qu'est ce monde, pour aussi s'en émanciper, se soustraire de tous les aspects de la domination qui la parcourt, de toutes les idéologies qui l'étouffent. De ce point de vue, l'écologie évolutive me paraît un bon paradigme pour remplacer toutes ces idées folles et pour essayer de replacer l'humain au sein de notre planète. Ainsi, la science peut devenir quelque chose d'humain, quelque chose qui construise de plus en plus une planète nouvelle. On a besoin de réfléchir aux choses de plus en plus, de s'échapper à toutes les magies, toutes les idées fausses, toutes les trolls qui envahissent de plus en plus le savoir pour essayer de retrouver intact, évidemment, la connaissance. Il faut essayer de ne pas sombrer dans le négativisme, de ne pas sombrer dans le relativisme, mais bien au contraire de faire la part entre ce qui est donné aux dominants, ce qui est pourvu pour les marchands et ce qui au contraire peut essayer de nous en émanciper.
Merci Thierry. Ainsi se termine notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Shahidi, et nous allons conclure par les Salles Majestés.
Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire, on en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de dollars. Oui, on les flingue citoyens. Votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des champs sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on abat. Alors arrête.